Quatrième, géographie, thème 3, des espaces transformés par la mondialisation. Chapitre 1, toujours mer et océan, un monde maritimisé. Cette fois-ci, nous sommes dans la partie cours. Avant d'aborder le cours et de l'expliquer, je vous rappelle que vous devez au préalable aussi réviser la carte des océans et des continents, la carte des grands repères terrestres, hein, maîtriser ces continents, savoir les placer, savoir placer les cinq océans sur la carte. Et puis, bien évidemment, aussi, je rajouterai les points de passage stratégiques sur la planète pour les voies de la maritimisation et de la mondialisation, à savoir le détroit de Malacca entre l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, le détroit d'Ormuz à la sortie du golfe Persique, et bien sûr aussi le détroit de Bab al-Mandeb à la sortie de la mer Rouge vers l'océan Indien, ou à l'entrée de la mer Rouge en sortant de l'océan Indien, si vous voulez. Le canal de Suez, qui est les trois passages entre le continent asiatique et le continent africain et qui permet de rejoindre la mer Rouge et vers la mer Méditerranée. Le détroit du Bosphore, qui ouvre la mer Noire vers la mer Méditerranée. Le détroit de Gibraltar, entre les côtes africaines du Maroc et les côtes européennes de l'Espagne. La Manche qui passe entre l'Angleterre et la France, le canal de Panama, point de passage entre l'océan Atlantique vers l'océan Pacifique. Donc voilà, tout ça, il faut bien le réviser, bien le maîtriser et maîtriser aussi les routes principales empruntées par les navires de la mondialisation qui rejoignent les trois mégalopoles, la mégalopole japonaise, la mégalopole européenne et la mégalopole des États-Unis, sur la côte est des États-Unis. Et aussi, bien sûr, la côte ouest des États-Unis, bien entendu, en passant par le canal de Panama. Donc maintenant, commençons le cours. Alors, le cours, donc, la mondialisation depuis la mer. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80%, voire 90% des échanges mondiaux sont réalisés par voie maritime, le long d'itinéraires ou de routes qui sont stables et qui sont empruntées par des flottes de navires de plus en plus puissantes. Je pense aux porte-containers notamment, qui de jour en jour augmentent leur capacité de transport de conteneurs. Ainsi, les espaces maritimes fournissent 33% des hydrocarbures. Alors, hydrocarbures, c'est ce qu'on appelle le pétrole et le gaz, hein, donc, qui sont transportés à 33% par les navires qu'on appelle les tankers. Le reste est transporté par voie terrestre, par ce qu'on appelle des oléoducs ou des pipelines en anglais. Et donc, ces espaces maritimes sont parcourus chaque année par 500 000 navires de commerce. La baisse des droits de douane et la conteneurisation, c'est-à-dire l'usage des caisses métalliques de conteneurs standardisés, donc la conteneurisation des marchandises et la baisse des droits de douane ont permis de rendre plus rentable le transport maritime. Effectivement, à l'heure actuelle, le transport maritime est le transport le moins coûteux pour transporter des marchandises. Donc, on voit bien l'explosion de la maritimisation liée à des coûts de transport qui sont les moins chers. Dans ces espaces océaniques, certains lieux de passage occupent une place stratégique. Alors, quels sont ces lieux de passage? Ce sont bien sûr les détroits et les canaux dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont de plus en plus protégés parce qu'aujourd'hui, il y a des actes de piraterie dans certaines des régions des porte-conteneurs ou des tankers pour, par exemple, le pétrole. Et certains pirates essayent de mettre la main justement sur les marchandises de la mondialisation, à savoir donc dans les régions d'Afrique de l'Est, ou par exemple aussi au large du golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest. Donc chaque État essaye de faire accompagner de façon défensive ces cargaisons pour que les pirates ne mettent pas la main dessus et ainsi, par exemple, l'armée française accompagne ou assure le trajet de certains grands porte-conteneurs français ou étrangers d'ailleurs. Alors, il y a aussi également une forte dépendance, en fin de compte, au territoire des espaces maritimes, puisque bon, la mondialisation, c'est quand même quelque chose d'essentiel économiquement pour les États. Et donc, les espaces maritimes deviennent de plus en plus occupés, mais aussi transformés par l'homme. Alors, ce phénomène, qui n'est pas encore généralisé à l'échelle du globe, s'intensifie tout de même. Et aujourd'hui, on assiste à la maritimisation, on appelle ça la maritimisation, hein, rendre un espace maritime, d'un nombre croissant de pays ou d'États qui sont littoraux et qui se tournent de plus en plus vers la mer pour des raisons géoéconomiques, on vient de le voir avec la mondialisation, ou géopolitiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, c'est pour mettre la main sur, par exemple, les ressources sous-marines qui sont situées donc à différents endroits de l'échelle de la planète, mais par exemple aussi dans l'océan glacial arctique, pour donner un exemple. Et ces États se dotent des moyens qui leur permettent d'affirmer leur souveraineté territoriale. Hein. Donc ils essayent justement de mettre la main sur les territoires et de mettre comme leur drapeau sur ces États pour montrer aux autres que, évidemment, les autres n'ont plus le droit de s'y rendre et d'exploiter les ressources. Alors ça pose un certain nombre de questions conflictuelles et d'enjeux à l'échelle internationale. Alors, on peut parler de ces espaces, ce sont par exemple les zones économiques exclusives, les ZEE, puisqu'on a, comme vous l'avez vu dans le vocabulaire, expliqué que ce sont des zones territoriales qu'on appelle les zones territoriales du pays, mais aussi une bande plus large jusqu'à 300, entre 350 et 370 km au large des côtes d'un État, à partir desquelles ces zones maritime, eh bien, commencent les eaux internationales où là les bateaux du monde entier peuvent exploiter les ressources qu'on trouve sous l'eau. Mais les ZEE sont vraiment un enjeu hein, de conflit parce que des fois les États veulent raboter les zones économiques exclusives des États rivaux et augmenter la leur pour pouvoir exploiter les ressources halieutiques, la pêche, mais aussi les ressources différentes liées par exemple aux gisements qu'on trouve sous la mer. Donc, il y a des enjeux et des affrontements pour la mise en valeur des richesses maritimes des États hein, dans ces zones économiques exclusives principalement, et puis pour faciliter l'intégration aux échanges mondiaux des pays, les pays aiment bien justement étendre leurs littoraux. Alors, les espaces maritimes, ça, on peut considérer qu'ils deviennent des territoires. Donc, c'est paradoxal puisque c'est sur la mer, mais on parle de territoire. Les grandes puissances, donc, sont toutes des puissances maritimes et navales. On peut citer les États-Unis, mais aussi la Russie, la Chine, le Japon. Et elles tentent évidemment de profiter pleinement de leur zone économique exclusive, mais aussi recherchent le contrôle de nouveaux espaces maritimes. Alors, j'ai parlé de l'océan glacial arctique, hein, on peut vraiment citer de façon emblématique cet exemple. Alors, évidemment, cela entraîne des tensions nombreuses et parfois même des conflits. Et ainsi, le trafic, il est peu important sur l'océan arctique, vous vous en doutez, puisque, évidemment, on rencontre la banquise. Mais ce trafic devrait simplifier à court terme, puisque, avec le réchauffement climatique, la mer ou l'océan reste sans glace plus longtemps et permet à des navires de pouvoir emprunter certains de ces passages. Alors, plus un État s'engage dans une littoralisation de son développement économique, plus il participe au processus de maritimisation de l'économie mondiale. Ainsi, on peut voir aussi les grandes façades maritimes qui vont polariser souvent les plus fortes densités de population, les lieux les plus convoités du monde pour leurs ressources, pour leurs richesses, les plus grandes métropoles qui s'y développent, et puis les plus puissants systèmes portuaires. Donc, je vous renvoie sur l'exemple de la Chine avec ces ports géants qui sont construits chaque jour un peu plus. Alors, les principales façades maritimes se situent en Asie orientale, on vient d'en parler, au nord de l'Europe et en Amérique du Nord. Les mers et les océans, donc, sont devenus des espaces de ressources et d'échanges très importants. On l'a vu, la pêche, les hydrocarbures, le transport maritime. Cela produit aussi une pression de l'homme sur le milieu marin de plus en plus forte, avec malheureusement des termes de pollution, d'épuisement des ressources naturelles, la fragilisation ou la disparition d'espèces naturelles. Les milieux océaniques sont fragilisés par l'action de l'homme avec la surpêche, la destruction des mangroves, qui sont des écosystèmes de marais maritimes qui vont abriter des végétaux spécifiques et qui ne se développent que dans la zone des marais, en fait, de la zone de l'estran, qu'on appelle la zone de différenciation entre la marée basse et la marée haute, et des côtes, donc plutôt des estrans, des côtes des régions tropicales, avec aussi parfois des récifs coralliens qui sont très fragiles. Alors, la pollution continentale, elle, se retrouve dans les océans. On le voit tous les jours, hein, on est sensibilisé à ça, heureusement, par les écologistes, qui, donc ces océans qui vont absorber d'abord le gaz carbonique qui est émis sur toute la planète et qui deviennent de plus en plus acides. Pourtant, on peut dire que les mers et les océans régulent le climat sur la Terre avec leurs courants et sont encore des espaces de ressources de premier plan. Il est donc crucial, il est donc très important à l'échelle mondiale, de s'orienter vers un développement maritime et littoral plus durable, plus propre donc, et plus adapté à ces espaces fragiles.